bien, nous sommes prêts pour cette première table ronde donc de la journée des rencontres de l'imaginaire, des 14e rencontres de l'imaginaire. Alors consacré, le titre est donc la SF francophone des origines à 1950, mais en réalité, je pense que vous le savez, nous allons en fait présenter le futur ouvrage de Guy Coste et Joseph Alterac qui s'appelle Rétrofiction, dictionnaire de la conjecture rationnelle francophone 1534-1951. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une table ronde où nous allons avoir des informations sur ce livre qui est déjà mythique, qui est virtuellement mythique.
Et je Il crois a parlé que trop tôt.
Voilà, et je pense que ce sera évidemment très, très intéressant. Alors, je présente donc rapidement, nos invités. Donc Guy Coste est né à Paris, donc en 1948, dans le civil. Après des études d'architecture, il est projeteur en cabinet d'architecture dijonnais durant 15 années, puis il devient ensuite cadre commercial dans le bâtiment. Il est retraité depuis 2008, mais à mon avis, il n'est pas retraité du tout de la science-fiction.
Pas de la science-fiction.
Voilà. D'accord. Il a découvert très tôt la science-fiction avec les premiers numéros d'Artima au milieu des années 50, puis la conjecture avec Jules Verne, Albert Robida, donc Wells, Ronnie Aîné, bien sûr. Et il a d'ailleurs établi une des premières bibliographies en France dans la revue Europe pour Charles Dobinsky, c'est ça. Il a organisé la convention de science-fiction de Quetigny, donc à Dijon, en 1983. Il a également exhumé Une nouvelle inconnue de Ronnie et publié intégralement... Oui, d'accord. Bon, alors, je vais plus vite. Voilà.
Ah non,
il a donc publié...
Ah oui, ah ben c'est avant-guerre.
Donc, je termine. Il a exhumé donc Une nouvelle inconnue de Ronnie et publié donc intégralement dans Les Valenciennes numéro 33 à la demande d'Arnaud Ufti. Voilà.
Ah, si, la nouvelle voilà, est intégrale.
Mes sources sont tout à fait justes. Voilà. Il a publié évidemment Les Terres Creuses en 2006, donc chez Les Belles Lettres et Ancrage avec son comparse Joseph. Et bon, évidemment, il travaille presque à plein temps sur le projet Rétrofiction. Alors, Joseph Alterac aussi, que nous connaissons très bien, mais c'est bien de refaire un petit peu de. Donc, une petite biographie rapide, né en 1957. Joseph Alterac a appris à lire dans des albums Tintin, donc ça c'est vraiment une information tout à fait capitale, et les romans de Jules Verne, avant d'enseigner les mathématiques. Il est l'auteur de plusieurs essais sur la science-fiction en particulier, et l'imaginaire scientifique donc en général, dont nous avons quelques exemplaires ici. Merci Guy donc de les montrer. Voilà, il exerce également la fonction de secrétaire du prix Ronnie Aîné, qui couronne annuellement à l'occasion de la Convention française de science-fiction le meilleur roman et la meilleure nouvelle de science-fiction francophone. Et donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer ce projet de rétrofiction à paraître en 2018. Et vous allez nous confirmer ça chez Ancrage, dans la collection Interface, dirigée par Joseph. Alors, ma première question, parce que moi, elle me semblait importante. Je voudrais que vous nous disiez un petit peu, d'abord, comment vous vous êtes rencontrés et pourquoi vous êtes mis à travailler ensemble.
Alors, le responsable est... Ah oui, pardon. Vas-y. Le responsable de la rencontre, c'est Dominique Martel, au tout début, qui a la convention... Non, bien avant même, la convention de Raymond Audemars. Non.
Si.
87
alors.
87
Non, c'est 8, celle de...
Non, c'est celle de la mutualité.
51.
Voilà, 51.
C'est 81.
Ou 1926. Je n'ai plus perdu. Alors, je ne sais plus.
Moi, je sais, c'est
81. Oui,
ok.
Je suis sûr.
C'est sûr aussi.
87, c'était la...
C'est pour ça qu'on écrit, c'est parce qu'on n'a pas de mémoire. Oui. Donc, une fois que c'est mis sur le papier, hop, on oublie.
C'est après 50, on s'en trouve.
Oui. Donc c'est effectivement Dominique qui m'a parlé de Joseph, il m'a dit il faut absolument que tu arrives à le rencontrer, ce qui s'est fait à la convention de Raymond Audemars, à la mutualité. Et là, on avait déjà évoqué le projet de pouvoir publier quelque chose, dont on n'avait pas la première idée, et après ça s'est concrétisé avec ces histoires de Terre Creuse, où je lui en ai parlé, je lui ai montré un premier manuscrit qui était loin d'être complet, il m'a dit « Oh oui, j'arrête tout ». Tout le reste, et on se consacre à ça, et voilà, tout est parti de là. La publication en 2006, après, on a envie de continuer parce qu'on s'entend quand même pas trop mal.
Et vous arrivez à vous supporter après tout ce temps?
Oui, c'est tout à fait étonnant, mais ça peut faire l'objet de thèse d'ailleurs, oui, oui. Voilà, mais je vais laisser la parole à Joseph. C'est bien, ouais.
Voilà, non, mais c'est effectivement ça. Donc après. Je ne sais plus trop le cheminement. Il y avait d'autres projets. Concernant le projet donc, de ce qu'on est en train de finaliser là. Il y avait déjà eu des tentatives, je me souviens avec Marc, Marc Madoro qui est là. Hein, tu avais commencé un projet de recension, je me souviens.
Non, c'est avec Philippe Murat et Triolo. Triolo. Et qui y avait d'autres, Philippe?
Gérard Meunier,
Fabrice Buton. Voilà, qui est psychiatre, et c'est lui qui a foutu tout par terre parce qu'il est devenu fou, ce qui fait qu'on on est passé à autre chose. Mais bon, il n'y avait pas Internet, on communiquait par... il n'y avait même pas de fax, on communiquait par courrier, donc c'était la galère totale.
C'était la préhistoire.
Ouais, vraiment la préhistoire. Ouais. Alors on est des survivants biologiques de la préhistoire. Ouais.
Bien. Et donc comment justement Philippe Etuin et Philippe Murat ont été embarqués également dans cette aventure, puisqu'ils sont crédités au générique?
Alors ils se le demandent, oui, mais à leur demande aussi, parce que nous on a résisté bien entendu, on voulait garder la vedette, et en fait devant la masse de travail on a délégué à leurs compétences des recherches spécifiques ou des questions qui nous posaient problème, et voilà, ils se sont retrouvés dans le projet amicalement et efficacement.
Ouais. Ah, il est en train d'expliquer qu'en fait, ils ne seront pas payés, c'est ça que ça...
Oui, c'est ça, voilà.
Vous êtes payés, vous?
Oui, très peu. Hein.
Mais oui. On a des droits d'auteur, sauf pour les terres proches. Hein.
Oui.
On touche des fois.
J'ai changé de marque de caramba. Oui. Et puis, voilà, on s'est acheté une mobilette chacun. Ouais.
Voilà. Alors
pour
revenir à des choses un tout petit peu plus sérieuses, donc je rappelle le titre de ce futur livre, Rétrofiction, dictionnaire de la conjecture rationnelle francophone, 1534-1951. Autrement dit, de Rabelais, je pense que c'est Gargantua, 1534, voilà. le point de départ, à la création de la collection du Rayon Fantastique en 1951.
Qui est la fin.
Voilà, qui est la fin. Alors, les chiffres actualisés du contenu justement de cette future somme. Donc nous avons 3965 auteurs identifiés, romans, nouvelles, dessins, gravures, images, partitions musicales, pour 10620 titres, indexés en 800 thèmes et sous-thèmes pour aider le chercheur. Environ 4000 pages et 1500 illustrations, voilà, pour vous donner quand même une idée de ce que sera évidemment ce très bel ouvrage. Alors la question que je voulais vous poser... Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas eu encore cette information pour le prix.
C'est le meilleur moyen.
Deux volumes, toujours.
Oui, je pense que l'éditeur a pris sa décision et que s'il ne revient pas sur son idée première...
Avec la jaquette, quand même, le truc de Capture d'âme, c'est ridicule.
Oui, c'est ridicule, effectivement. Ouais. C'est toi qui l'avais, la jaquette.
Oui, alors, on vous donnera, évidemment, je pense, des informations beaucoup plus pratiques au fur et à mesure. Et moi, j'avais envie de vous poser la question, justement, au vu de cette somme. Cela fait des années que vous accumulez donc ces références bibliographiques. Est-ce qu'à quel moment, finalement, est-ce que vous avez eu envie d'en faire une encyclopédie? Parce que je sais que vous avez toutes ces références, que vous avez des bibliothèques absolument fantastiques.
En fait, ça vient d'admiration pour Pierre Versin. Hein, donc c'est, on est tous nourris du Versin, hein, de l'encyclopédie de l'utopie, de la fiction de Versin. Et donc, il y a longtemps eu des projets qui ont couru de... Bah, nous avons ici Pascal Ducommun qui dira certainement quelque chose à ce sujet-là, de faire une édition plus complète du Versin, apporter des compléments, des corrections, etc. Ça ne s'est jamais réellement fait. Il y a toujours eu des sortes de projets comme ça dans l'air de continuer Versin, d'enrichir Versin. Et c'est un peu ça.
Et pas que nous dit, c'était vrai pour tout.
On s'est dit qu'on allait faire ça, sauf qu'on allait recentrer, c'est-à-dire que Versin, évidemment, s'était intéressé à toute la conjecture, à toute la science-fiction, l'utopie au sens du terme.
Mondial.
Mondial, voilà, et puis il voulait faire une présentation. En plus, le Versin, c'est un essai. Hein. C'est une encyclopédie, bien sûr, mais c'est un essai. Il y a la personnalité de Versin.
Oui, c'est un ouvrage un peu multigenre, quand même. Hein.
Il insiste sur les choses qui l'intéressent, il choisit les thématiques qu'il veut.
Il est très partisan.
C'est très, très partisan, au sens qu'il faut le prendre comme ça. C'est un essai. Hein. C'est bon. Voilà. Donc, nous, évidemment, on est forcément aussi subjectifs énormément, mais on a décidé de faire un travail absolument systématique. D'abord, rester dans le domaine francophone, ce que je ne fais pas vers ça, couvrir tous les types de supports, ce que a tenté de faire effectivement vers ça, et surtout vraiment recenser tout ce que nous trouvons, sans se préoccuper de la question de la qualité. Hein, ce qui nous intéresse, c'est à partir du moment où nous voyons quelque chose qui relève de la science-fiction au sens large, de la conjecture romanesque rationnelle de Versin. Nous le recensons, nous donnons un petit résumé, des fois ça peut être une ligne, hein, ça peut suffire, des fois c'est beaucoup plus long, hein, mais l'idée c'est d'être absolument complet. Disons que tout ce que nous trouvons, que nous jugeons relevé de la conjecture, nous le recensons et nous disons surtout pourquoi. Il ne s'agit pas juste de mettre un titre, hein, ce qui est fort énervant, la liste avec des titres et des auteurs, et où on passe un temps fou à les retrouver pour se rendre compte parfois que ça n'est pas...
Ça ne fait pas partie du domaine.
Bon, c'est horripilant. Alors nous, horripilés par ça pendant des années, on s'est fixé une règle qui est il faut toujours indiquer pourquoi le texte est pris. Le texte ou l'image.
Ou les dessins, ouais.
Et également, il est indispensable, alors, sauf quelques très rares cas, qui sont vraiment très rares, que nous ayons vu l'image ou lu le texte, hein, au moins de larges extraits. Alors, il y a quelques très rares cas où nous sommes obligés de citer une personne, parce que nous n'avons pas pu voir
accès au livre, accès, ou au dessin.
Voilà, on s'est toujours indiqué, on dit un tel a écrit ça, voilà, on le marque, et c'est rare. L'immense majorité de ce qui est dans ce livre, l'immense majorité, nous l'avons vu. Voilà, ça c'est important. C'est pas, on fait pas une, juste une compilation de ce qu'ont fait nos amis avant, les gens qu'on admire ou sur lesquels on s'est appuyé pour commencer le travail, bien sûr. Hein. Mais il faut que tout est revu, tout est garanti. Enfin, sauf erreur technique, bien sûr. De saisie, d'erreur.
Oui, mais sur le nombre de références,
voilà, nous avons
obligatoirement.
Tout est vérifié. Et d'ailleurs, ça permet d'ailleurs de constater ce que connaissent les bibliographes comme Dominique Martel, par exemple, pour 42, le nombre d'erreurs considérables qu'il y a dans les références, même très sérieuses, hein, de très bonne qualité, mais avec énormément d'erreurs. Et surtout, beaucoup de. Une chose qui est importante, c'est. Qui nous semble très importante, c'est repérer ce qu'on appelle. Ce terme que je n'aime pas beaucoup, qui est de la pré-originale d'un texte paru dans la presse. La pré-originale, non, c'est l'original. Le texte, il est paru là. Je ne sais pas pourquoi on a inventé ce terme de pré-original ridicule.
C'est vrai que ça l'énerve.
C'est ça qui... on essaie d'y faire très attention. Vraiment trouver la première occurrence d'un texte, d'une image ou de quelque chose, essayer de la repérer et ensuite de décliner... Alors, pas faire une bibliographie complète, c'est parce que ça devient, pour certains titres, c'est de la folie, mais essayer de repérer des choses un petit peu marquantes. Voilà.
Juste un détail pour les bibliographies, on a essayé de mettre l'original, donc qui est souvent dans des revues ou des journaux ou la presse, la première édition, une édition remarquable pour les illustrations quand c'est un illustrateur important, et la dernière édition disponible pour le public.
Bon, on essaye.
On essaye de faire ça. Tout ce qui entre, on ne l'a pas mis parce que ça alourdissait les biblios pour rien. Et les gens ont maintenant accès à Internet de manière simple et facile, ce qui fait qu'ils iront chercher les renseignements complémentaires s'ils veulent aller les chercher. Mais nous, nos biblios, c'est ça. Original, première édition, édition remarquable s'il y en a une ou plusieurs, et dernière édition disponible. Mais on n'a pas mis de référence de Gallica parce que les gens sont capables d'aller tout seuls, aller chercher les renseignements sur les auteurs et tout ça comme ça. On fait des présentations minimalistes de chacun des auteurs. On pourra nous reprocher des oublis, mais pas des erreurs ou des choses fausses. En tout cas, on a cherché à ne pas propager des faux renseignements où les gens se recopient les uns derrière les autres et ainsi de suite. Et on arrive à des certitudes qui n'en sont pas du tout. Donc, on a cherché à faire nettoyer un peu ce genre de choses. Voilà, c'est là-dessus qu'on voulait
surtout insister. Donc, ce sera vraiment un outil... ce sera vraiment quelque chose de très utile pour,
alors,
pour les
chercheurs.
C'est
l'explication que nous a fait l'honneur de la préface de Gérard Klein,
oui.
Où il explique qu'effectivement, ça sera un outil pour les chercheurs, tels que toi ou d'autres, iront chercher, surtout à cause de l'index. Mais ça, on va y revenir à la fin, parce que j'ai prévu une petite image pour vous montrer comment va être constituée l'indexation des textes de l'ouvrage. Mais on verra à la fin.
C'était une question. Donc, en fait, vous êtes à la fois, je dirais, vous prenez en compte donc, le Versin, donc vous êtes un peu les héritiers, finalement, de Pierre Versin, et en même temps les continuateurs, et donc le Versin...
Je ne sais pas s'il l'aurait reconnu, mais nous-mêmes, on
se
fixe en tant que disciples. Oui, tout à fait.
Hein, voilà. Alors, après, autre question, est-ce que vous pourriez me citer vos plus belles découvertes et celles qui vous a vraiment, enfin celles au pluriel, qui vous ont vraiment donné du fil à retordre? Vous avez du mal à retrouver. Voilà, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter par rapport justement à une découverte tout à fait extraordinaire et puis d'autres découvertes plus compliquées?
Alors, en effet, la première idée, c'était de partir de la première utopie française. Donc, c'est le royaume d'Antangile, 1616. On voulait commencer là. Et Joseph a insisté beaucoup pour que, effectivement, on ne passe pas à côté de Rabelais, ça serait une bêtise de ne pas l'inclure dans l'encyclopédie. Et je dois dire que l'affiche Rabelais a été une galère noire pour ressortir de son œuvre absolument immense et hyper connue, mais en fait pas du tout, parce que les gens disent qu'ils l'ont lu, mais ils ne l'ont pas lu, et pour faire ressortir ce qu'il y avait de rationnel et de conjectural à la fois dans Rabelais. Ça, c'est grosse
galère. Il me semble que dans un quart livre, quand même, il y a beaucoup.
Ah, mais il y a beaucoup, oui, oui. Mais voilà, c'est difficile de l'extraire de cet amoncellement de renseignements.
Exactement, compléter ce que tu dis là sur Rabelais, c'est très embêtant quand on fait un travail comme on le fait, justement de parler de quelqu'un qui est très connu. Parce que qu'est-ce qu'on va dire
de plus, voilà.
Bon, nous, sur Rabelais, il y a des tonnes d'ouvrages, d'études, bon, voilà.
C'est vrai pour Jules Verne,
voilà,
pareil.
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire sur Rabelais? Alors, on sélectionne quelques trucs, bon, voilà. Alors, cela dit, c'est un exercice amusant, mais c'est les entrées les plus pénibles à faire, c'est sur les auteurs connus. Parce qu'au fond, ça ne nous intéresse pas tant que ça. Parce que nous on cherche plutôt les choses moins connues.
Mais il faut quand même les recenser.
Mais bien entendu. Et pas dire de bêtises. Voilà.
Dans les trucs pénibles, il y a ça. Par exemple, faire une entrée Jules Verne, c'est très pénible. Parce que, pas pénible, parce que moi, j'ai... Enfin,
on aime Jules Verne. Mais que dire de nouveau, de neuf?
Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, c'est une espèce de listing, on rappelle des thématiques, etc. Si on se met à mettre des petites anecdotes, c'est pas le lieu. Il y a des revues verniennes spécialisées, il y a... Il paraît, j'exagère à peine en disant qu'il paraît un bouquin sur Jules Verne tous les deux mois, mais c'est un peu exagéré, mais il y en a régulièrement, donc que faire? Pourtant, il faut bien qu'on le mette. Voilà. Alors ça, c'est le truc, c'est un peu embêtant. C'est beaucoup plus facile, et d'ailleurs, c'est un piège, de parler des petits trucs pas connus, et de se mettre à un peu disserter sur un petit truc. Mais je crois que c'est quand même ça qui fera la richesse de l'ouvrage, des petits trucs un peu curieux. Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
C'est un problème, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut avoir une vue d'ensemble, ce travail, l'encyclopédie, ça sert à tout ce qu'on veut, sauf avoir une vue d'ensemble. Si on commence à rentrer dedans, on est totalement perdu.
Oui.
Voilà. Bon, donc après, il faudra faire son chemin. On essaye.
C'est le travail de rédaction, de correction, qui nous a amené à cette conclusion, en disant, oulala, ça va être un peu
effrayant. On le présente entrée hauteur, hein? Essentiellement. Il y a essentiellement les entrées, ce sont des auteurs.
On va en discuter, hein, voilà, on va en discuter après. Et donc, un auteur vraiment ou deux, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a émerveillé.
C'est pas Mottet que tu avais fait.
Si, c'est Maurice Mottet.
Oui, c'est vrai.
Que dire de plus, sans trop dévoiler, c'est un illustrateur du tout début du siècle.
Il y en a, t'en as vu?
Je pense qu'il y en a.
On verra la durée comme ça apparaît.
Mais voilà, on a écrit pour ne pas avoir à s'en rappeler, donc il faudra le lire. Mais j'aime bien Julien Mauvrac aussi, j'adore ce qu'il fait, et c'est du délire total, c'est dans des petits fascicules qu'on ne trouve pas facilement, voilà. Et ça, c'est une richesse supplémentaire. Voilà, ce sont ces petits auteurs-là qui ont attiré notre sympathie, en tout cas la mienne, je ne sais pas pour Joseph. Il a peut-être d'autres anecdotes.
Oui, je trouve aussi, c'est les enfin, moi, les trucs qui me fascinent le plus, peut-être, c'est les bandes dessinées. Et en fait, je me rends compte que je passe beaucoup de temps dans les recherches à essayer de comprendre qui a dessiné quoi dans tous ces fascicules, à partir de, on va dire, de la fin des années 30, à l'avant-guerre, jusqu'en 51, puisqu'on s'arrête en 51. Il y a une profusion de récits complets, ou alors de bandes dessinées dans d'innombrables revues illustrées de toutes sortes. Et c'est une espèce de dédale fascinant d'essayer de savoir qui a dessiné, dans des cas miraculeux, qui a scénarisé. C'est pas souvent marqué. Et c'est des questions sans fin qu'on pose à d'autres connaisseurs, d'autres collectionneurs, comme Francis Saint-Martin, par exemple, qui s'y connaît considérablement, à essayer de retrouver. Alors, et en même temps, on s'amuse à... Enfin, moi, en tout cas, moi, personnellement, hein, j'essaie de comprendre comment qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça devient de la bande dessinée? C'est-à-dire que, il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont intéressées à ça, mais là, du point de vue de la science-fiction, qu'est-ce qui se passe dans les années 30? Est-ce qu'il y a une continuité entre des gens comme Maurice Rothé, dont on parlait tout à l'heure, ou comme Géry, par exemple, hein, qui vient d'être réédité
à la BNF
nationale, un très bel album, oui, oui. Du Géry. Est-ce qu'il y a une continuité de ces auteurs du début du 19e, enfin du 20e ou de la fin du 19e, et qui donneront ensuite la bande dessinée de science-fiction telle qu'on la connaît? Ou est-ce qu'il y a une très forte influence de l'arrivée des quelques BD très importantes américaines, genre évidemment Guillemard, Flash Gordon, Edmond Drake et autres, Brick Bradford? Comment ça s'articule, ça? Je vois toujours pas très bien. Je vois beaucoup de choses intéressantes. Je ne sais pas qui influence qui vraiment, comment ça fonctionne. Pour moi, un des trucs qui m'aura étonné dans ce travail, c'est de voir la complexité de ce monde de ces petits trucs populaires de bande dessinée des années 30-50. Je ne me sens pas à l'aise. Je sens bien qu'il manque des choses. Je ne vois pas comment ça fonctionne.
Mais ça, ce sera peut-être les continuateurs de Guy Coste et Joseph Alterac.
Oui, oui, avec les absences qu'on a pu avoir. Oui. Je repense à un dessinateur intéressant, pas par son parcours politique, parce qu'il a fini mal, mais c'est Nicolas Mengen, qui est une énigme.
Oh, il a fini mal,
Oui, bon, on n'est pas là pour...
Oui, il est mort, oui.
Oui, voilà, il est mort, oui. Et avant 51, donc c'est pour ça que ces dates sont là. Mais il est assez fascinant, oui.
D'accord. Et alors, justement, puisque vous parliez des illustrations, quelle a été la part, finalement, des illustrations dans cet ouvrage? Est-ce qu'il a été difficile de réunir toute l'iconographie? Et est-ce que vous avez pu tout publier? Ou est-ce que, voilà, il y a peut-être...
Non, c'est très facile de réunir l'iconographie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout mettre.
Voilà. Il a fallu faire des impasses, et peut-être on nous le reprochera, mais c'est des choix subjectifs. Mais par contre, qui fascine et qui intéresse. La preuve, depuis le début, tout le monde regarde l'écran et personne n'écoute. Oui. Donc,
mais c'est un peu le but.
C'est aussi le but, voilà, d'éviter de dire des bêtises.
C'est pas le même sens, on peut très bien fonctionner en...
Faire les deux. Merci, Georges.
Voilà. Voilà, et donc ces illustrations, donc, pareil, comment vous avez fonctionné? Vous avez récupéré, vous avez cherché...
Surtout, on a tous plein de documents.
Voilà.
Et la difficulté technique, c'est les...
Déjà, de choisir entre nous deux, ça, c'est pas simple. Et puis
après l'éditeur qui arrive, en changeant tout aussi, enfin bon, c'est l'affaire.
L'éditeur, il a
pas
son
mot à dire. Parce que vous avez trop donné d'iconographie, et donc l'éditeur vous a... Comment ça s'est passé?
Il a fait des tris, mais des tris qualitatifs, déjà, parce que le JPEG était pas bon, parce que...
Et d'ailleurs, dans ce que tu as sélectionné, c'est pas toujours des trucs qui ont... C'est tout qu'on trouvera toujours?
Non,
pas tous, non. Oui, non.
C'est les belles lettres et ancrage. C'est une coédition.
Et au niveau des droits, est-ce que vous avez des difficultés par rapport à ces illustrations?
Non, c'est nous. Mais
la décision de l'éditeur en matière d'image, c'est uniquement la qualité du fichier informatique.
C'est très compliqué, là.
Après, le reste...
C'est marrant, ça.
Ouais, c'est un crayonné.
Mais peut-être que quand, à la fin,
on pourra revoir les images.
Illustrer, puis refaire tourner le diaporama. Voilà. Alors, moi, je voulais revenir à quelque chose
On a mis pas mal, et de toute façon, c'est un peu frustrant, mais il y aura des entrées sur des illustrateurs où il n'y aura pas
d'illustration. Ouais, le paradoxe.
Là, on essaye de faire, là, pour le coup, on essaye de faire des bibliographies d'illustrateurs. Hein, on ne voit pas ça assez souvent. Hein, on prend un illustrateur et on liste ce que nous considérons comme relevant, en gros, l'ASF, hein, en voyant toujours au texte qu'il a illustré, s'il a travaillé, c'est généralement le cas pour l'auteur, enfin, il a illustré l'auteur. Donc ça, on a vraiment beaucoup d'entrées illustrateurs, beaucoup. Et je parlais de BD tout à l'heure, beaucoup d'entrées de dessinateurs de BD et de scénaristes, quand on arrive à les repérer. On essaie d'être plus complet là-dessus pour les dessinateurs. Hein. Je pense qu'on a fait un assez gros travail là-dessus. Hein.
On s'est fixé une limite. Pour qu'un dessinateur ait son entrée, il faut qu'il ait au moins fait deux dessins. S'il n'y en a qu'un...
Non, c'est
quand... Alors, tu donneras ton idée tout à l'heure. Quand il n'y a qu'un dessin qui illustre un ouvrage d'un littéraire, il est cité dans la bibliographie de l'ouvrage. Mais il n'a pas son entrée.
Ah là, oui.
Voilà.
Oui, mais s'il a un dessin qu'il a fait tout seul, comme un grand...
Il n'a pas forcément son entrée.
Ah ben si, il l'a, toujours. Ah bon. Alors, comme pour les nouvelles. Hein.
Faudra que je relise le truc.
Non, mais on va y revenir après par rapport à la
un dessin d'humour, s'il y a un dessin d'humour.
Oui, il sera pris, oui, enfin, t'as raison.
D'humour, mais un autre. Hein. C'est surtout des dessins d'humour, il faut dire.
Oui.
Voilà. Alors sinon, oui, il y a des trucs rigolos qu'on découvre quand même.
Oui, alors, justement, moi je voulais revenir sur pourquoi avoir finalement choisi la zone francophone et pas uniquement la France. Et donc, qu'est-ce que vous entrez finalement dans cette dimension francophone? Et pourquoi surtout vous êtes axé par rapport à la zone francophone?
Alors, comment dire? Déjà, pour la bande dessinée, elle n'avait pas été traitée dans les Terres Creuses et on nous en a fait le reproche. Donc on a dit, on va annexer la bande dessinée, en plus des illustrateurs, et en plus des nouvelles et des romans. Ensuite, comment dire?
Mais c'était sur la question de francophonie plutôt.
Pas francophonie.
Sur, pas francophonie. Sur l'image, hein.
Alors, je vais aussi te donner le micro, mais oui. La Belgique, bien entendu, la Suisse, le Canada, donc la partie Québec, oui. Bien sûr, Ontario éventuellement, oui. L'Afrique noire, et oui. Les... province, comment dire, les protectorats français. Oui, il y a des auteurs qui sont publiés en Syrie, colonie, qui ont publié dans le Tonkin, qui ont publié... Alors, ce sont des Français, bien entendu, mais oui. Ils ont été publiés à
dans
Hong Kong, voilà, ou à Saïgon, ou oui. À Ho Chi Minhville, maintenant. Voilà.
Oui. Oui, donc ça c'est vraiment en intéressant, fait, parce
oui,
que c'est
alors,
des auteurs qui sont
on l'a pas, on n'a pas du tout une approche, comment dire, il n'y a pas d'entrée consacrée à des pays, en fait. Ce qu'on a juste fait, on a décidé de traiter la francophonie. Alors, ça pose d'ailleurs un problème, par exemple, dans des domaines comme le cinéma, où la notion de nationalité est compliquée.
Des réalisateurs.
Voilà, bon. C'est assez. Bon. Mais bon, voilà, on a décidé de mettre tout ce qui était en langue française. Donc, tout ce qui était en langue française. Mais on n'a pas essayé de faire une sorte d'entrée suisse où on ferait une sorte d'histoire de la suisse. Non, on n'a pas.
Elle est traitée à chacun des auteurs.
Non, par contre, tout ce qu'on a trouvé est traité, y compris les fascicules québécois les plus improbables, avec l'aide d'ailleurs de notre ami
Jean-Louis
Trudel, voilà. Oui, oui. Il nous a résumé des fascicules introuvables. Bon, voilà. Et donc, on les met, tout ceci y est. Mais la seule chose on aura juste une entrée, qu'on avait failli ne pas mettre, qui est en fait une entrée de listing. On met francophonie, on liste les Belges, les Luxembourgeois, il y en a un, c'est vite fait.
Hugo Gershbach.
Non, c'est pas lui, justement.
c'est
Paul B, les Luxembourgeois. Et les Suisses, bien sûr. Et puis on a mis les anciennes colonies, Algérie, tout ça, mais bah, on va dire Afrique du Nord, en gros. Et puis les deux ou trois trucs qu'il y a dans le Tonkin, ce qu'on appelait le Tonkin, etc. Bon. Mais qui sont évidemment qui sont toujours des auteurs français. Il se trouve qu'ils résident, qui sont ou pieds noirs, ou bien ils ont longtemps résidé en Algérie ou au Maroc, etc. Mais certains, on les met, on distingue. Pourquoi on distingue? Parce que c'est amusant, c'est qu'ils sont édités dans
sur
ces
place.
Régions-là. Ils sont édités à Alger, ils sont édités à Casablanca, ils sont édités à Saïgon. Donc on trouve que c'est intéressant de le signaler. Et puis, souvent, il faut dire que les textes ont assez souvent.
Un lien
avec la région.
Avec la région,
même,
voilà.
Ça se passe ça se passe quelque part en Algérie, ça se passe. Donc, on a trouvé que c'était intéressant de le repérer. Mais c'est tout. On n'a pas prétendu faire une histoire des science-fiction.
C'est pas l'objet.
C'est pas l'objet. Voilà. Donc, il n'y aura pas une histoire de la science-fiction québécoise. Par contre, quelqu'un d'extrêmement courageux peut essayer de faire une sorte d'histoire de la science-fiction québécoise en piochant.
En allant piocher les auteurs québécois.
Oui. Mais Jean-Louis Trudel a sorti un petit
fascicule
cette année sur la science-fiction québécoise. Oui.
Quoi qu'il y a peut-être un ou deux trucs qu'il n'a pas vu, ce serait.
On serait très content.
Oui. Oui, donc c'est vraiment un bel outil que vous allez nous proposer, parce que du coup, voilà, quelqu'un qui va chercher sur cette zone francophone ou qui veut s'intéresser aux publications, effectivement, des anciennes colonies françaises, voir peut-être les caractéristiques de ces écrits par rapport à la France, ça pourrait être vraiment une base tout à fait intéressante.
C'est une base de données, bien...
Exactement, tout à fait.
Juste. Costaud, c'est-à-dire qu'il y a une idée de ce qu'il y a dessus. Quoi. La personne qui va l'utiliser... Elle sait déjà un peu ce qu'elle va y trouver. C'est pas juste, ah, tiens, il y a ce nom, c'est quoi? Il y a ce nom, il y a ce titre. Dans ce titre, il est question de ça. Voilà, c'est pas qu'une bouteille, enfin, c'est pas que juste une référence. C'est déjà un peu ce qu'il va trouver. Alors, bien évidemment, on ne pourra pas peut-être parler du problème des thématiques. Hein.
C'est ma question. C'est la question
suivante.
Justement, c'est la question suivante. Alors, comment est-ce que vous avez construit Rétrofiction? Est-ce que vous pourriez nous expliquer le principe des entrées, des rubriques, de l'index, etc., des thématiques?
Alors, en fait, les entrées, donc, on a essentiellement, ce sont essentiellement des entrées auteurs. Hein, on a un auteur.
Ou dessinateur.
Oui, je dis auteur, voilà, un créateur, hein, un dessinateur, un cinéaste, un écrivain, qu'est-ce qu'on a comme autre métier? Il n'y a pas grand-chose. Un peintre, éventuellement, enfin, un illustrateur, enfin, bon. C'est un auteur. Bon, alors, essentiellement, c'est des entrées auteurs. Alors, il y a quelques entrées sur des supports. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait cinéma, on fait une entrée pour chaque réalisateur qui nous intéresse. Il a son entrée. Généralement pas très développée. Mais enfin, on a une entrée cinéma où il y a la liste de tous les films. Enfin, nous, on considère comme les films conjoncturels.
Comme on a fait une entrée théâtre, opéra, opérette.
Voilà, comme il y a une entrée théâtre.
Les auteurs,
on a même osé une entrée poème.
Les musiciens. Ah oui, on a fait ça aussi.
Oui, oui.
Voilà, mais c'est juste sous forme de listing. Après, il faudra aller chercher dans chaque entrée
c'est pas
les renseignements.
À chaque fois, hein. C'est pour ça qu'on est. C'est un outil, mais bon, il reste des gens qui vont travailler dessus sur des thématiques ou sur des zones régionales ou sur tel type de personnalité, que sais-je, ou tel type de support. Il aura une aide, mais voilà. Après, à lui, à la personne, selon le travail qu'elle veut faire. De creuser ensuite. Hein. Nous, on ne donne pas une histoire du cinéma de science-fiction. Oui. Par contre, il y a un grand listing avec tout ce que nous, on considère comme étant un film relevant vaguement de la science-fiction.
Alors, justement, pour vos recherches, deux exemples qui, à mon avis, sont intéressants par rapport peut-être aux difficultés, c'est le cinéma et puis vous avez parlé d'opérette. Donc, il a existé des opérettes.
Conjecturale.
Comment avez-vous fait pour retrouver ces documents? Enfin, j'imagine il y a les médiathèques.
Gallica est quand même un outil exceptionnel. Ouais. Oui. Ce qui fait que quand on a entendu parler d'un opéra de Offenbach qui s'appelle Le Voyage dans la Lune, on est allé voir ce que c'était. Là, on a cherché. Alors, il est très connu. Oui. Mais il y en a des moins connus. Voilà. Oui. Donc, on les a déjà oubliés, mais ils seront au moins référencés et avec le nom de l'auteur. Et ensuite, on ira chercher à l'auteur le détail de son opérette. Et à chaque fois, avec explication pourquoi c'est conjecturel à nos yeux et une bibliographie de l'ouvrage.
Voilà. D'accord, oui.
Détaillé, comme on l'a dit.
Mais ça marche. On revient sur la question que tu poses sur comment on s'y prend. En fait, c'est difficile de répondre à ça. C'est même pas des méthodes, c'est plusieurs personnalités. Nous, enfin, nos manières, ce qui nous intéresse. Ce qu'on a fait quand même depuis des années, parce que ça fait des années qu'on accumule des tonnes de bouquins et de références, tout ça, c'est ça en fait, en réalité. On a déjà un fond à nous, et une manière de chercher personnelle qui sera difficile de décrire à des gens, notre feeling.
Et
demander aux autres camarades, comme Marc Maduro par exemple, ou François Saint-Martin,
ou
Fleur Hopkins, à sa manière à elle, ou le docteur Murat, ses méthodes étranges de recherche. En torturant les clients, enfin les malades. Voilà. Bon, et voilà, mais on fait appel à des personnalités qui n'ont pas le même regard. Enfin, des regards communs, mais ils ont leur manière, leur obsession, leur thématique obsessionnelle, leur support obsessionnel. On a trouvé un cinglé qui s'intéressait aux assiettes ornées.
Je ne suis pas le premier. Hein.
Voilà, il faut. Donc, appel à différentes personnes, comme ça, obsédées depuis des années, qui accumulent depuis des années. Ben, ça déblaye considérablement le travail.
Oui. Hein?
Et après, quand on a une liste avec. Même pour les. Moi, je m'intéresse un peu à la musique comme ça, et en essayant de regarder, j'ai cherché les symphonistes, tout ça, j'ai trouvé un ou deux trucs, des trucs qui sont un peu en rapport avec les essais. Il faut chercher. Hein? Mais voilà, on fait appel aux différentes compétences. Et puis après, il faut bien admettre que l'Internet et l'extraordinaire outil de Gallica sauvent la vie. Dans,
oui, c'est peut-être justement un ouvrage qui n'aurait pas pu être réalisé. Enfin, je sais que ça fait des années que vous travaillez dessus, mais Internet, je pense, et puis.
Oh, mais il serait beaucoup moins.
La performance de Gallica est arrivée au milieu de notre travail.
Voilà,
donc,
voilà.
Ça a considérablement aidé la terminaison.
Oui.
Et même une fois tout rédigé et commencé largement les corrections, Jean-Luc Barre nous a donné une liste de feuilletons qu'il avait repérés. Ah, il y en avait une bonne dizaine ou vingtaine que nous n'avions pas du tout repérés. Donc il a fallu recommencer. L'éditeur s'est arraché les cheveux.
Voilà, bon. Voilà. Oui, enfin, l'éditeur, il a l'habitude maintenant. Oui. Mais c'est vrai qu'on aurait pu, sans l'Internet, en fait, bon, évidemment, il y aurait beaucoup moins de choses. Hein. Enfin, on aurait cumulé déjà tout ce que nous on connaissait, ce que connaissaient nos amis, qui collectionnent depuis des années. Et donc, c'était déjà ce qu'a fait Versailles, hein, comme ils faisaient Versailles. Voilà, pareil. Hein. On a fait comme Versailles.
Versailles aurait eu Internet, notre livre n'existerait pas. Oui. Ça, c'est clair.
Ah oui, on passerait, oui, bien sûr. Il aurait travaillé autrement.
Oui, parce que Pierre Versailles a raconté.
Non, mais comme tu dis, en fait,
c'est très, très laborieux.
L'outil Internet est arrivé, et puis l'outil Galdica plus spécifique, avait déjà Internet, hein, qui permet d'avoir accès à des bibliothèques avec des listes, avec des références quand même relativement correctes.
Avec un nombre d'erreurs incohérentes.
Bien sûr,
qui aide
quand même beaucoup. Bon. Ça aurait été différent, c'est sûr, mais enfin, il aurait quand même été costaud aussi. Hein.
Oui, bien
c'est
entendu.
Des années de recherche.
C'est un plus très,
c'est
très marquant.
C'est des années d'obsession de chercheurs, mi-chercheurs, mi-collectionneurs. Ça, c'est un milieu qui existe depuis Versailles, en fait. Hein.
Oui,
pas
depuis
Versailles.
Oui.
Il y a Messac aussi, même avant, hein, par exemple. Messac aussi, mais il est mort un peu trop vite, lui. Voilà, il avait commencé ce genre de... C'est quelqu'un qui recherchait partout aussi, mais ça, quand on regarde cet exemple-là. Mais après, on va prendre Versailles, qui est le plus
représentatif. En tout cas, il parle à tout le monde.
En feuilletant des revues, il suffit de lire ce que j'ai édité, la fameuse correspondance rigolote entre Bergier et Versailles, en rigole, en voyant comment ils font. Ah ouais, mais ramène-moi le lot de bouquins que tu as trouvé. Ah, j'ai trouvé telle reliure. Voilà, ben, c'est comme ça. C'est des gens qui. Puis il faut appeler à leurs souvenirs. Je me rappelle, j'ai lu ça. T'as. Et voilà.
En se trompant aussi.
Réseau, c'est un réseau d'amateurs. Ouais.
Voilà. Donc il y a beaucoup d'amateurs. De, finalement, un peu le principe quand même de la sérendipité, c'est-à-dire
aussi. Des
trouvailles qui viennent de.
S'il n'y a pas trop de hasard, je veux dire, quand on passe sa vie chez les bouquinistes et sur le marché aux livres, c'est pas très étonnant qu'on trouve des choses qu'on connaît
vous
pas.
Vous savez
plus,
pas ce que vous allez trouver, mais vous savez que vous allez trouver quelque chose. Hein, c'est ça.
C'est vrai qu'on trouve beaucoup en cherchant. Oui.
Voilà.
Et on apprend beaucoup en lisant les livres aussi.
La grande leçon, c'est très surprenant quand on lit effectivement les textes. Ouais. C'est rarement des descriptions qu'en avaient fait les autres. En tout cas, on les dit tiens, c'est drôle.
Donc, Joseph, tu sous-entends que peut-être les livres n'avaient pas été lus auparavant.
Ben, c'est un petit peu ça.
Un peu cité, mais. Alors, justement, pourquoi inclure des objets de la science-fiction ? Parce que quand Pierre Versailles, justement, avait fait son encyclopédie, je sais qu'en même temps, il y a une très jolie émission de la télévision suisse, archivée sur Internet, qui raconte cela. Et Versailles dit qu'il avait effectivement récupéré tout un tas d'objets, mais qui n'a pas rentré, évidemment, dans l'encyclopédie. Alors
que
vous avez... Oui, mais moins peut-être que vous, de façon
systématique. On l'a fait de manière beaucoup plus systématique.
Voilà, c'est ça.
Et parce que ça nous a donné l'envie, l'idée. Oui. Et puis, comme on a accumulé beaucoup de choses, ben, on les a aussi mis dans l'encyclopédie. Et en faisant l'encyclopédie, on se rend compte qu'on cherche aussi à une certaine complétude et qu'on se remet à chercher encore plus. Et puis, les copains aidant, les listes s'allongent, mais on les décrit toujours en expliquant en quoi c'est conjectural.
Oui, parce que il y a des assiettes, des gravures, des bons points, des cartes postales. Enfin,
des éventails ou éventaux.
Des éventails. Voilà. Donc tous ces objets. Alors, qu'est-ce qu'il y a en fait sur ces objets? Est-ce qu'il y a vous les avez sélectionnés comment? Est-ce qu'il y a
Ça saute aux yeux quand même.
Ça dépend. Voilà. Les jouets, c'est décevant. Parce qu'on
oui, c'est assez décevant pour les jouets. Oui, c'est vrai.
Jeux et jouets, on n'a pas grand-chose. Une petite liste.
La date de 51, qui est la date de fin de notre travail, fait que, effectivement, dans le jouet, c'est assez limité. Mais sinon, il y a aussi. Dans les timbres, il n'y a pas grand-chose. Avant 51, il n'y a pas grand-chose.
En francophonie. Mais non, mais parce qu'on ne fait pas dans la fantaisie tellement avant. Enfin, en fantaisie, au sens. Les thèmes sont plus sérieux avant.
Ben, c'est surtout des auteurs, et puis dans les thématiques, il n'y a rien, en francophonie en tout cas, avant 51, il n'y a pas grand-chose.
Bon,
par contre, en assiette, oui, il y a beaucoup de porcelaine de science-fiction. Oui. Voilà.
D'accord.
Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup.
Voilà. Ouais. Étonnant. C'est étonnant. Assez étonnant. Mmh. Oui, oui,
ça fait combien d'assiettes à peu près? Je sais plus.
Une bonne centaine. Ouais. À peu de choses près. Donc c'est beaucoup. Quand on donne un listique à quelqu'un, il dit « Oh là là, il y a tout ça ».
Et c'est un peu, je compare tout ça tout le temps, même l'objet lui-même, à la fin d'un cours de physique nucléaire à la faculté. Le tableau noir est rempli de hiéroglyphes dont personne ne comprend rien. Mais par contre, si on assiste au cours et qu'on voit l'évolution, on arrive à saisir le fond de l'objet. Et là, c'est un peu le cas. C'est ce que voulait dire Joseph tout à l'heure en disant oui, ça peut paraître étonnant, mais en fait, non, c'est du travail au fil du temps. Petit à petit, l'oiseau faisant son nid, on arrive à un gros nid. Ouais, ça, c'est vrai.
Oui, ça pourra faire l'objet d'une belle thèse, à mon avis, plus tard, de l'iconographie conjecturale dans l'histoire de la céramique du XXe siècle. Vous voyez, ça ferait
un
titre.
Oui, oui, c'est petit.
Après,
il y a des questions qui se posent, mais justement, qui seront traitées, qui sont déjà traitées par des tas de chercheurs aussi, mais qui sont est-ce que ceci a un sens? C'est-à-dire que ces regroupements que nous faisons ont-ils réellement un sens? Alors, dans les assiettes, par exemple, prends l'exemple des assiettes. Des fois, il y a des séries qui sont clairement utopique ou dystopique ou bien des engins volants. Bon. Mais après, c'est un peu le syndrome à l'adversaire, c'est-à-dire qu'on accumule des choses. Nous, on dit que c'est de la conjecture romanesque rationnelle. On en fait une espèce de grand ensemble.
Mais on le fait a posteriori.
C'est un peu difficile de donner une définition. C'est juste pas possible. L'ensemble est extraordinairement hétéroclite. Mais encore une fois, c'est pour ça que j'ai insisté au début, ce qu'on a toujours fait, c'est toujours dire pourquoi on le prend. Alors après, le lecteur dira, mais vous le prenez parce qu'il y a ceci, cela, mais moi,
j'estime
moi
que
ça
ne
m'intéresse pas. Nous, on l'a pris pour cette raison-là. Donc après, est-ce que cette raison est suffisante pour justifier une encyclopédie comme celle-là? Peut-être pas. Mais en tout cas, à chaque fois, on donne la raison de l'annexion.
Et elle aura le mérite d'exister.
Ça, c'est des mérites maintenant. Oui, bien sûr.
Alors, avant justement de passer un petit peu aux illustrations et puis aussi donner la parole au public, parce que je pense que projet va susciter beaucoup de questions. Donc, je vais vous poser une grande question. Au final, est-ce que c'est l'œuvre d'une vie, de vos vies, de votre vie? Est-ce que cet ouvrage va justifier finalement les heures innombrables consacrées à votre passion depuis des années?
Sans doute, parce qu'il est fatigué.
J'ai 10 ans plus que lui, ça ne se voit pas au premier regard, mais c'est vrai que... Non, moi, ma passion, c'est le jardin, donc je fais ça à côté.
C'est juste un hobby, en fait.
Oui, voilà, c'est un hobby, oui, on est bien d'accord, oui. Ouais, c'est ça. Joseph, il en a d'autres.
C'est la musique.
La musique, voilà, oui, c'est ça. Et les porte-avions ou les cuirassés japonais de plus de 60 000 tonnes.
Éventuellement, les cuirassés japonais, j'y en seulement j'y en.
C'est ça.
Non, mais sérieusement,
et d'autres, mais c'est inavouable.
Sérieusement, je pense que c'est ce type d'ouvrage. Vous arrivez au bout, ça va être publié. Je crois que c'est quand même une belle réalisation aussi.
On est très content de nous, bien sûr. Voilà. Tu penses bien. Oui. Mais est-ce que le public sera content de l'ouvrage, surtout au prix où il va se demander? Joker.
Il y a un truc terrible, ça fait de la peine. J'en ris un peu, mais ça fait de la peine. C'est tous les amis qui nous envoient des renseignements, des trucs, etc., en rêvant d'avoir un exemplaire de presse. Tous ceux qui vont être déçus, ça va être terrible.
Ça va être terrible, oui.
Mais est-ce que vous croyez, alors peut-être pas, parce qu'évidemment c'est une édition papier, mais est-ce que par exemple ce type de travail ne mériterait pas à l'avenir de devenir un portail, justement de...
Ah mais Dominique et Hélène se sont proposés pour mettre ça
c'est
après.
C'est un peu le...
Moi je crois.
J'ai tendance à penser, l'opinion que j'ai, c'est que le truc qu'on a fait, c'est effectivement... ça s'appelle le principe. Quand tu fais un truc où tu arrives au maximum de tes capacités, c'est trop. C'est-à-dire que au fond, ce n'est plus efficace. Et on le voit, cette énorme encyclopédie, je pense qu'il y a une limite. C'est-à-dire qu'il faut être juste. Sous sa forme papier, ça sera un objet, je pense, fascinant pour beaucoup de gens. Les gens font comme souvent, c'est-à-dire qu'on feuillette.
On déconseille formellement de le lire du A au Z à la suite.
Mais et c'est vrai, aujourd'hui, c'est un peu absurde. Il aurait fallu que ce soit un travail
en ligne.
Mais on s'est fait plaisir. On a été trop fascinés par le versant depuis longtemps, le gros livre. C'est une fascination qu'on a. Et effectivement, ceci, il va falloir que ça bascule. Non, pas très longtemps, en attendant quand même que le livre soit sorti. Mais
non,
ça basculera
d'une autre... C'est pour ça que je parle à moyen terme.
Hein. Il faut
passer à autre chose. Par exemple, on a fait
un
énorme travail de cinglé, de thématique qui relève de la folie, en mettant des thèmes. Les malheureux qui vont essayer. Je veux voir quelqu'un utiliser des thématiques.
Mais il y en a dans la salle, ne t'inquiète pas.
Parce que ça, c'est faisable, mais ça demande beaucoup de patience, des bons yeux, et il faut avoir un stylo.
Alors ça va être le reproche, voilà, c'est que le corps d'écriture choisi pour tenir dans ce format...
C'est les numéros aussi, tu sais, quand les rangs...
Ah oui.
On a fait un analyse thématique. On a fait
des images, on va voilà. Montrer ça.
Donc, maintenant, je vous laisse peut-être commenter les images, les illustrations qui passent. Je ne sais pas comment...
Oh non, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Oui, elle est mal mise.
Celle-là est mal mise, par exemple.
Il suffit de pencher la tête sur la gauche. Ouais. C'est pas...
Non, mais je ne sais pas s'il y a un endroit où va apparaître vaguement l'analyse thématique.
Si. Mais il faut sortir du diapo.
Ah oui, il faut sortir du diapo après.
Oui.
Voilà. Je vais regarder. Ah, c'est notre truc. Ah ouais, là, ça va être dur. Hein. Ah ouais, c'est ces machins-là. Ouais.
Voilà, alors le temps peut-être que...
Alors, attends,
oui, vas-y.
Ça, c'est les couvertures. C'est les crayonnettes de couverture de Gintac qui ont été envoyées hier. Donc c'est...
Ah oui.
C'est toujours en avance.
Oui, mais assez en avance. Ah ouais, c'est mal photographié. Hein. Ah non, on ne voit rien.
Merci, monsieur.
Ah bon ?
J'ai une idée.
Ah oui, c'est mieux. Voilà, là, c'est mieux. Là, on voit mieux. Là. Ouais.
Liste des thèmes.
Ouais, c'est un peu
ardu. Alors, c'est un peu ardu, effectivement, mais c'est la seule manière qu'on a trouvé de...
Non.
Pardon. Voilà. Donc, il y a une liste de thèmes dans la colonne A, une liste de sous-thèmes dans la colonne B, et les numéros que vous voyez là, vont renvoyer à un autre tableur qu'on va vous montrer tout à l'heure, qui sont les titres. Voilà. Il faudrait le décaler un petit peu à droite.
Ou à gauche, ça dépend quelle droite et quelle gauche. Ou alors tu recules. Ah ben on ne sait pas trop encore. Ça s'appelle rétrofiction. Rétrofiction. L'année prochaine, oui. Hein.
C'est pas le 56.
Et une question, peut-être, oui. Guy et Joseph, une question sur le titre. Bon, évidemment, sauf s'il n'est pas définitif.
Oui,
bien sûr,
c'est mon
rôle.
Fâche,
justement, ce titre. Bon, là, vous avez appelé rétrofiction.
Oui.
Pourquoi ce titre de rétrofiction?
Parce que c'est à force de chercher.
De rien trouver, par défaut, on a gardé ça. Voilà,
parce que,
et puis le F majuscule au milieu, ça faisait rigolo. Voilà. Moi, j'aimais bien, voilà.
Oui.
On a réussi à convaincre Joseph et l'éditeur, mais ça reste provisoire. Si quelqu'un a une autre idée meilleure,
on est prêt. Encore. C'est encore jouable. Oui. Qu'est-ce qu'il propose, Dominique ?
Conjecture ?
Non.
Ça, c'est dans le sous-titre.
C'est le sous-titre, oui.
Encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle francophone.
C'est quoi le sous-titre ?
C'est... encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle
francophone, avec les dates 1551. Voilà. Nous allons passer. Oui, tu veux commenter.
Vous avez donc le thème ici, le sous-thème éventuel du thème en question. Et là, c'est la liste des titres. On n'a pas pu mettre les titres en entier parce que ça serait complètement illisible. Déjà là, c'est lourd à lire. Et donc, le lecteur ira ensuite dans le deuxième tableau qu'on peut envoyer, où il ira repérer le 4880 par ces numéros-là, qui sont classés par ordre alphabétique.
Alors, les personnes qui ne savent pas ranger les nombres par ordre croissance-décroissance, c'est désespéré. C'est indispensable de connaître cette technique, sinon...
Mais c'est comme l'ordre alphabétique, hein, Joseph. On a eu du mal à classer comme il faut les trucs, parce qu'on ne l'a pas fait de manière informatique. Donc on s'est fié à notre cerveau, qui est dans un état pitoyable, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à recorriger l'ordre alphabétique des entrées. Mais voilà, donc ça va se présenter sous cette forme-là. Ce numéro-là est lié au titre, qui renvoie au thème, ou le thème renvoie au titre, avec l'auteur, l'année, le nombre d'items par année, ça c'est un renseignement qui est sympa, parce qu'on sait qu'en 1901, dans notre bouquin, il y aura 113 titres référencés.
Alors cela dit, c'est un
point
délicat. Comme je dis, on a beaucoup de discussions ensemble et sur ce problème statistique, il faut y faire très attention parce que sur des évidemment, je vous dis, vous savez tous, sur des statistiques, il y a beau y avoir beaucoup de titres, sur des travaux comme ça, les statistiques ne veulent pas dire grand-chose. C'est des domaines trop faibles. Si tout d'un coup, on fait un index, à un moment donné, on a un truc en fascicule où il y a 50 fascicules, et si on se met à lister, comme il est arrivé, les 50 titres, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a une explosion de...
En 1933, par exemple, voilà, une explosion.
C'est pas vrai.
C'est faux. Parce que c'est un seul titre d'un roman dont on a détaillé les titres des fascicules. Donc,
à utiliser avec prudence.
Il faut vérifier, pardon.
Il faut les pondérer. Alors ça, tu m'expliqueras. Je connais l'histoire de la pondération, mais le faire vraiment, c'est autre chose. Voilà.
Ok. Ouais. Alors, on va passer maintenant aux questions du public. Okay. Donc, oui, alors, Thierry.
Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi s'arrêter en 51.
Voilà. Alors, parce que c'est un sujet. On a hésité.
Joseph, prends le micro.
On pensait, au moment donné, on se disait, on va s'arrêter à la guerre, hein, la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même un truc qui casse un peu les choses, mais enfin. Après, on pourrait aller un petit peu plus loin. 51, c'est l'année de sortie du Rayon Fantastique, la collection Rayon Fantastique.
Et du Fleuve Nord.
C'est aussi le Fleuve Nord Anticipation.
Nous a semblé une étape importante dans l'histoire de la science-fiction.
Le terme de science-fiction, effectivement, arrive un peu avant, ou deux ans avant.
Un ou deux ans avant, oui.
Il y a ce truc, ce phénomène éditorial science-fiction qui vient des États-Unis et qui a... dont on parle dans différentes revues, et il y a la sortie donc de la collection Rayon Fantastique avec cette présentation de la science-fiction qu'on trouve dans les Rayons Fantastiques, intéressante. Bon,
on considère
il faut s'arrêter quelque part, il faut bien trouver une date d'arrêt. Elle a une valeur, me semble-t-il, correcte, qui est que tout de même, avec l'arrivée du Rayon Fantastique et des revues qui vont venir très vite,
Fiction, Galaxie, ouais.
Fiction, et la collection spécialisée du Fleuve Noir, Anticipation, il y a un choc de l'arrivée de la science-fiction américaine. Il y a vraiment un choc. Donc, il suffit d'ailleurs d'en parler avec les auteurs survivants. Hélas, j'en ai parlé, on en a parlé souvent avec André Ruylan, par exemple, des comme ça. Et on peut en parler avec Philippe Curval, par exemple. Hein.
Il sait qu'il est survivant.
On aurait pu en parler aussi avec, évidemment, Michel Jury, etc., ouais. Qui, lui, lisait aussi des vieilleries hein, d'avant. Bon. L'arrivée du Rayon Fantastique, l'arrivée de ces revues a été un choc culturel, je ne sais pas comment dire. Les auteurs eux-mêmes, les gens ont vu une autre manière d'écrire de la SF, hein, même s'ils faisaient de la SF avant. Et donc, il me semble qu'il y a un basculement là. Mais c'est tout. On aurait pu mettre 49 plutôt que 51, ou aller jusqu'à 54. Il faut s'arrêter. Oui, il faut s'arrêter quelque part.
Il y a une certaine logique par rapport à ça, c'est qu'aussi finalement la génération qui porte cet ouvrage, c'est la génération qui a vécu cette rupture.
Oui, absolument.
Donc en fait, c'est l'optique d'une génération sur le phénomène.
Oui, mais c'est parce qu'effectivement on se fie, enfin, nous-mêmes on en fait partie, mais enfin bon, on a des aînés quand même, hein, eux qui l'ont vécu vraiment à l'époque en voyant sortir ces bouquins, souvent dans le cas... d'auteurs, en fait.
Ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui a 25 ans, il n'aura pas nécessairement cette...
Oui,
mais c'est...
Mais ça va être une aide.
Il y a beaucoup de choses à répondre à votre question.
Francis, mais,
on peut dire aussi que, grosso modo, tous les auteurs qui ont écrit cette science-fiction ne savaient pas ce qu'ils écrivaient exactement.
Alors, ensuite, à partir de 5 ans, ça, c'est la question...
La littérature a été définie et nommée.
Absolument.
Donc, les intervenants savaient qu'ils écrivaient de la science-fiction.
C'est vrai en gros, ben c'est globalement vrai. Malgré tout, on s'aperçoit, enfin à l'usage, on s'aperçoit tout de même qu'il y a des tentatives, il y a des sortes d'étiquettes qui existaient tout de même. Hein.
Bon,
je ne parle même pas de l'utopie. Hein,
l'on retrouve la guerre entre IS et SF dans les premiers numéros de l'imaginaire scientifique.
Oui, imaginaire scientifique.
Le mot de science-fiction n'apparaît que bien plus tard.
Les romans de science et voyage.
En France.
Oui, voilà.
Même aux États-Unis.
Oui, c'est pas aussi.
On a persisté justement jusqu'à 54. Au dos de Starting Stories, ainsi de suite. C'est science fiction, c'est pas science-fiction.
Oui, ça met du temps.
Philippe, vous voulez poser une question.
Philippe, plus loin.
Pour revenir sur les films, c'est il va y avoir des erreurs. Par exemple, le titre 59, il y a une faute de frappe. Hein. C'est marqué Académie au lieu d'Académie. Mais ce que je veux dire, il va y avoir des erreurs. Donc, un des premiers retours qu'on attend, c'est le signalement des erreurs. Simplement, on a essayé de se donner des objectifs et des moyens, pour revenir à la gestion sur la méthode, pour limiter le nombre d'erreurs. D'abord, le regard croisé des deux auteurs principaux, des deux collaborateurs, et puis de tous les contributeurs. Voilà, je vais dire ça comme ça à la bouche, sans que ça soit une hiérarchie, mais voilà, le cercle s'est élargi comme ça. Et le regard croisé nous a permis de rectifier un certain nombre d'erreurs. On n'imagine pas le nombre d'erreurs qui sont véhiculées dans ce domaine comme dans l'autre, en termes de référence, en termes de mémoire de lecture ou de visionnement pour les films, c'est encore plus catastrophique, etc. Ensuite, en essayant d'avoir une définition commune du domaine, ça paraît rien. Personne n'est capable de définir ce qu'est la science-fiction exactement, mais on a tous une petite idée. Là, on a essayé de mettre le curseur au même niveau, ce qui donne une certaine homogénéité. Il y a eu, alors je ne peux pas faire de statistiques à la noix, mais peut-être 2 à 3% de titres, d'objets de l'étude, qui n'ont pas fait l'accord d'un consensus, qui n'ont pas abouti à un consensus. Soit parce qu'ils ont été exclus, alors que certains d'entre nous pensaient que ça relevait du domaine, soit pour quelques-uns qui ont été intégrés par les deux maîtres d'œuvre, alors que certains pourraient penser que sinon, vraiment, ça ne relevait pas du domaine. Simplement, la précaution, c'est très important ce qu'a dit Joseph tout à l'heure, c'est d'expliquer en quoi nous estimons collectivement, presque collectivement, que ça relève du domaine. Et effectivement, c'était un truc terrifiant. Enfin, le premier boulot qu'on a fait avec Guy et d'autres, c'était la chasse aux intrus. Parce que franchement, acheter des bouquins parfois très chers pour s'apercevoir que ça n'a rien à voir avec le domaine, c'est quand même très agaçant. Et moi, j'ai eu...
Il en a des armoires complètes.
J'avais une armoire d'intrus à la maison. Une armoire.
Tu l'as toujours ?
J'ai l'armoire, mais j'ai plus les intrus. voilà. Ensuite, quelqu'un qui va lire l'ouvrage, il va savoir pourquoi on a intégré. Donc à lui, effectivement, ce qu'a dit Joseph est fondamental, à lui de faire le tri, à lui ou à elle, de faire le tri et de dire... Ils ont retenu ça pour ça, ils exagèrent, mais au moins je sais pourquoi ils l'ont retenu et je sais pourquoi moi je ne vais pas le retenir. Et ça, c'est très très important. Ensuite, les choses dans les difficultés, moi j'en ai vu plusieurs. Premièrement, les auteurs obscurs qu'on n'arrive pas à identifier, les anonymes, les pseudonymes, etc. Autre chose, on limite à la francophonie, mais dans un certain nombre d'ouvrages, en particulier en revue, c'est quand même très difficile de savoir si c'est francophone ou une traduction. Qu'un auteur s'est approprié sous son nom ou quand le texte est anonyme. Donc là, il y a eu une grosse difficulté et il y a eu un travail de tri. Et il est encore possible, alors premièrement, qu'on ait éliminé des titres parce qu'on a estimé que c'était traduit de l'anglais, etc.
À tort.
Voilà. Ça peut être il est aussi possible qu'il reste quelques titres où on pense que c'est un auteur francophone et en fait, c'est peut-être pas le cas.
Oui, tout à fait. Notamment dans les... enfin, il y a plein d'endroits, mais les publications au Offenstadt, à un moment donné, il y a des auteurs... dans l'intrépide des compagnies des premières années, après ça va. Il y a quelques auteurs qui ont fait que un truc de.
Il y a l'exemple dont on parlait.
Savoir si c'est vraiment français ou si c'est pas de la traduction pirate ou pas pirate, mais où le nom d'origine n'est pas donné. Il y avait peut-être des accords commerciaux passés avec des revues, des publications anglaises, des choses comme ça. Oui, on peut se faire avoir. Hein.
Alors, ensuite, dans les difficultés, il y a un domaine qui a été éprouvant. C'est le cinéma.
Ah oui,
c'est pour ça que je vous ai posé la question.
Là, on n'aurait pas pu avancer comme on l'a fait sans Internet, pour répondre à la question sur Internet.
Oui.
Dans les films muets, on accède à un certain nombre de films muets, ce qui n'était pas possible avant. Et on sent bien que dans beaucoup d'ouvrages de référence sur le cinéma, c'est l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, qui a vu l'homme, enfin, etc. Je ne sais pas dans quel sens ça se passe, mais c'est machin qui a vu que machin avait vu tel film quand il était ado, et donc qui, 30 ans après, raconte comment, enfin, ce qui se passe dans le film. Et là, vraiment, quand on regarde les films, on a vraiment, enfin, on se rend compte qu'il y a vraiment des décalages incroyables. Je ne parle même pas de l'analyse qualitative, ça m'a plu, ça ne m'a pas plu. Il y a des chefs-d'œuvre qui sont des doubles absolus et réciproquement. Hein. Mais sur le contenu même. Voilà. Après, l'autre élément, c'est des éléments pratiques. Je prends un exemple très précis, c'est le journal d'illustration. Moi, j'ignorais complètement ce qui avait été publié dans l'illustration, les dessins d'Orniot et puis de Camille. Et donc, c'est en travaillant avec Guy et Joseph que j'ai découvert ça. Et j'ai découvert bêtement, ça paraît peut-être évident à certains d'entre nous, que ces dessins étaient sur les deuxième et quatrième de et troisième de couverture. Ce qui veut dire qu'on a l'ouvrage de référence qui nous dit il y a tel dessin d'Henri ou tel dessin de Camille dans l'illustration. On voit des reliures de l'illustration passer absolument partout et on ne trouve jamais ces dessins, tout simplement parce que dans les reliures.
Les reliures ont été virées.
Voilà. Alors c'est le genre de détail pratique. Pour l'amateur qui cherche des dessins d'Henri au cadeau, le fait de savoir ça, bah, ça change complètement la donne. Et dernier point, c'est les pré-originales. Excuse, j'avais utilisé ce mot grossier, mais les éditions en revue avant la publication en volume. On a, grâce au travail vraiment de défrichage qui a été fait sur des revues, on a pu avancer de 20 ans la date
de certains ouvrages.
De 20 ou 30 ans. Parce qu'en fait, les deux baillis, on a dans l'idée le talendier bleu des années 30, mais ça date de la fin du 19e siècle, etc., etc. Il y en avait, on savait, mais il y en avait, on ne savait absolument pas. Et c'est l'apport croisé de différentes personnes qui a permis de retrouver ça. Et on retrouve encore, là, on vient d'avoir encore
une confirmation.
Voilà, encore d'un ouvrage dont on va reculer la date.
Oui, il y a tout ça. Bon, je vous signalerai aux amis. Il y a un Lefort qu'on avait années 30, en taillandier ou je sais trop quoi, on a enfin trouvé que, en fait, il datait, c'était évident en lisant le texte, qu'il datait de 1912, en fait.
Parce qu'il y avait avant la guerre. Du coup, ça va complètement changer la donne.
On a enfin retrouvé pour la
vraie. Ce qui pourrait faire dire à un lecteur peu attentif que le tableau des titres est faux à cause des dates, parce que certaines sont reculées de 10, 15, 20 ans.
Donc, mais là, il est fou furieux, là, ceux qui
pensent ça. On parle d'une mise en ligne du catalogue.
Je prends des paris.
Si on y arrive, l'intérêt des contributeurs futurs qui auront accès en ligne à ça, c'est pour signaler les quelques erreurs, de nous aider à boucher les trous de brière. Donc, les manques, ceux à côté de quoi on est passé, mais ça c'est évident, mais aussi par exemple de nous dire hey, finalement, dans telle revue, 15 ans avant la date que vous indiquez, je peux vous montrer que en fait, l'ouvrage date de 15 ans en amont. Et je pense que ça c'est vraiment très important d'arriver à utiliser ce travail pour un socle de travail contributif.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas, nécessaire de demander si les textes. Le texte n'a pas été profondément modifié.
Non, ça ne nous intéresse pas du tout.
Ça coupe pas la question. Oui, c'est vrai. Oui.
Je crois que Marc avait une question.
J'ai plusieurs questions. Je vais D'abord, un point de détail, j'ai vu passer dans les couvertures, la couverture qui s'appelle l'aviation, la vertitude, qui dans mon souvenir est une prospective militaire. Donc par exemple, pourquoi il est pour l'illustration.
Tu fais bien de poser cette question. Ouais, voilà. Là, c'est une limite embêtante, hein, où là, on n'est pas d'accord. Enfin,
bon, bref, c'est l'illustration.
Voilà, bon, voilà. Souvent, dans certains des articles ou des essais, même tout à fait sérieux, qui ne sont pas des fictions du tout, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où il y a juste l'auteur va parler de l'aviation, futur, etc. Il parle très sérieusement, mais il y a une illustration
qui décrit
une guerre, voilà, une guerre future. Bon, ok. Donc, on le prend, mais en fait, c'est à cause de l'illustration. Et, encore une fois, on le signale bien. On a produit ce n'est qu'un essai, c'est un essai tout à fait sérieux. Hein. Mais nous, il y a dans cet essai cette illustration qui nous intéresse. Voilà, ça, c'est une première raison. Alors, parfois aussi, comme tu le sais, des fois, il y a des essais sérieux, et tout d'un coup, l'auteur se met à raconter une guerre future, par exemple.
Il met en scène.
C'est souvent, voilà, il met en scène le truc. Alors là, après, c'est délicat. Des fois, c'est fait bien mis en fiction, donc il n'y a pas d'hésitation, on le prend. Après, ça devient une appréciation. Il y a des trucs qu'on a mis, on aurait pu ne pas les mettre, il y en a qu'on n'a pas mis, finalement. Bon, là, on est dans ses limites. Mais pareil, à chaque fois, au lecteur, on prend la peine, hein, toujours de dire, on l'a mis pour cette raison-là. Il y a un passage un peu anticipé, où l'auteur parle de tel truc. Bon, voilà, on va pas... Mais on essaye toujours, quand même, à chaque fois, hein, de bien dire pourquoi.
Et des fois,
il y a des... Là, dans les, par exemple, dans souvent les projets architecturaux, par exemple, les projets architecturaux délirants. Et puis il y en a un qu'on a mis.
Claude Nicolas Ledoux.
Oui, il y a Ledoux, par exemple, c'est intéressant, tout récemment, là, qu'on a fini par intégrer. Et puis, je ne sais plus, il y a des dessins aussi dans les jeux
de société.
Voilà, où des fois, il y a une tour, des projets une espèce de super tour, je ne sais plus, la tour Madagascar, tout ça. Bon. Après, tu dis, est-ce qu'on va recenser tous les trucs, ou les ponts sur la Manche, etc. Il faut être juste, là, c'est un peu au feeling. Quand on trouve que l'image est vraiment bien et ça vaut la peine, ou que l'auteur a pris la peine, le dessinateur a pris la peine de mettre dessous des navires et tout, bon, c'est-à-dire qu'il a vraiment mis le truc bien en scène, on va le mettre. Mais on n'a pas la prétention d'être complet. D'ailleurs, honnêtement, il y en a plein qu'on n'a pas mis. Bon, là, c'est. On ne peut pas dire que... Je sais pas, il aurait fallu faire effectivement une encyclopédie de la conjecture rationnelle, on va dire vulgarisation, hein, qui serait autre chose. C'est vrai, là, on est dans un domaine où on n'est pas à l'aise pour donner nos raisons d'annexion ou pas.
Et par exemple, est-ce que vous avez consacré une entrée au espèce de catalogue de banque Carteret sur la
LNQ ? Alors, ben là, voilà, ça c'est une question marrante parce qu'on l'utilise évidemment le
comme outil.
C'est un outil. Mais en fait, on ne fait pas.
Mais on ne l'a pas référencé.
Voilà, non, nous on référence dans notre encyclopédie, comme on a décidé qu'on regardait tout, on considère que nous sommes nos sources. Hein. C'est-à-dire qu'on a tout vérifié, tout. Donc.
Non, on ne considère pas que nous sommes nos sources. Oui, on considère que nous serons les sources des autres.
Voilà, c'est-à-dire que nous ne recopions pas ce qu'on fait d'autres. On s'en est servi aussi, bien sûr. On a regardé le Carteret comme tout le monde. D'ailleurs, des fois, c'est embêtant. Parce que Carteret, il reproduit des trucs.
Sans dire où il a trouvé le truc.
D'où il les a tirés, c'est un peu embêtant. Donc parfois, on est coincé. Il y a quelques cas où on est obligé de lire qu'on prend dans le Carteret, en citant le Carteret, parce que les références qu'il donne, lui, ne sont pas assez précises pour qu'on puisse aller les vérifier. C'est difficile, voilà. Donc on le fait, mais on ne met pas une entrée pour Carteret. On l'avait fait à un moment donné, qu'on allait
faire. Non, on l'a dit.
On ne met pas une entrée pour les bouquins de référence. On ne fait pas. On considère qu'on a tout revu, nous. Hein.
Et il y a certaines entrées qui dépendent du pouvoir de persuasion de Joseph sur moi ou l'inverse.
Ah ben évidemment, oui.
Parce que voilà, il y a des fois on n'est pas d'accord, donc il faut bagarrer sec. Et il y a des fois on tombe les bras et d'autres fois on gagne la guerre.
Avec Philippe, c'est toujours très, très.
C'est surtout le domaine médical parce qu'il est très chiant là-dessus.
On ne peut pas le contredire parce qu'il connaît lui.
Il peut se venger, il connaît de quoi faire.
Ah oui, c'est tout ça.
Aussi, ouais, avec toi-même en plus.
Oui.
Autre sujet que justement Guy et moi connaissons bien, on a vu quelques exemples qui ont défilé, c'est les cartes postales, parce que les cartes postales et les chromos notamment, elles ont des origines des fois un peu
douteuses
et imprécises. Par exemple, si on prend la série de Hildebrandt du début du siècle,
elle n'y est pas. On ne l'a pas conservée. Elle est germanique, oui. Belge et Pays-Bas, oui. Non, on ne l'a pas gardée, oui, on ne peut pas.
Donc, c'est un bouquin
étranger qui aura été traduit. C'est considérable.
Exactement.
Ah, oui.
C'est le même cas de figure. Oui. Donc il n'y est pas. Oui. En revanche, en 2000 de Villemar, font partie du domaine francophone, voilà. Donc elles y sont.
Comme ça a été dit tout à l'heure, on peut s'être trompé. C'est-à-dire on peut avoir gardé des
trucs en croyant
qu'ils sont d'origine francophone, et non. Ça, on a pu faire des erreurs. Mais à chaque fois qu'on a réussi à repérer, là tout récemment, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure, hier avec Francis Saint-Martin, j'ai acheté une petite BD des années 40, qui est une histoire de tunnel sous l'Atlantique, et j'avais deviné quand même. Mais j'ai trouvé, sur le fascicule français, il n'y a aucune indication de dessinateur ni rien, ni d'auteur ni rien. Mais en fait, c'est un dessinateur italien, et c'est une adaptation d'ailleurs du roman de Motta, tu sais, le tunnel sous-marin, tout ça. Bon, ça se devinait. Mais à grâce honnête, j'ai trouvé le fascicule italien, où là, par contre, pour le coup, on peut lire le nom du dessinateur, hein, et en plus, c'est marqué que c'est adapté de Motta. Non, mais ça ne sert à rien, puisqu'on ne le prend pas.
Oui, certes, mais pour ma culture personnelle.
Ah oui, non, d'accord, voilà. Voilà, donc.
C'est le zone des années.
Ma grande difficulté, moi, c'est d'éliminer ces BD. Parce que sur le coup, c'est pas facile de y en a deux ou trois, c'est pas.
Mais c'est très séduisant en plus, donc on a envie de la conserver, mais non, on peut pas.
On essaie de les éliminer.
Juste une précision pour les BD, elles sont quasi systématiquement mises au nom du scénariste,
au
dessinateur.
On a essayé quand même.
Quand il y a deux co-auteurs. Donc il ne faut pas aller chercher quelque chose en sachant le dessinateur, parce que vous ne le trouverez pas. Mais où il y aura un renvoi. Mais voilà, c'est surtout de manière plus systématique au scénariste. C'était intéressant de le dire.
Mais on y arrive, il n'y a pas de problème. Hein. Si on va au dessinateur, de toute façon, ça renverra
au scénariste. Ça renverra au scénariste, oui.
Donc il n'y aura pas d'oubli. On ne peut pas rater, hein, sauf des erreurs qu'on a faites.
Qu'on a commises d'oubli.
Autrement, il y a des renvois partout. Donc.
Comme il y a des co-écritures, comme Joseph Alterac et Guy Coste, c'est chiant parce que, où le mettre ? Eh bien, on fait un renvoi du premier au deuxième, et ainsi de suite. Mais au moins, le livre est traité.
Sinon, si vous avez évoqué le domaine québécois tout à l'heure, je suis là passé pour dire qu'il y a eu plein de séries et de petits fascicules bon marché, que même les Québécois.
Ah ben voilà, alors là, on est. Là, c'est des limites.
C'est Jean-Louis
qui a
tranché au final, oui, parce que.
On a posé beaucoup de questions à Jean-Louis sur des tas de séries, mais il faut quand même voir. Effectivement, mais c'est le même problème qu'en France, c'est plus facile.
on connaît suffisamment d'amis collectionneurs pour demander, c'est rare. Enfin, il y a des trucs qu'on ne sait pas. Hein. Enfin,
il y avait un Jean de La Hire qui nous a posé un problème la dernière. Mais il est grâce à Fleur qui l'a trouvé à la BNF.
Voilà, tu sais, celui
aucun des collectionneurs n'avait suivi.
En fait, c'est une version tronquée de L'homme qui peut vivre sous l'eau. Hey, on le sait maintenant. Voilà. Mais bon, ça, on y arrive. Mais évidemment, pour les Québécois. Là,
parce que tu as des très longues séries comme Isotrait où il y a une partie qui est DSF.
Eh bien voilà.
Alors, c'est beaucoup moins connu comme Monsieur Mystère où il y a extrêmement de DSF dedans.
Eh bien, on a fait on a mis ce qu'on pouvait, mais là, honnêtement.
Et beaucoup de ces séries sont quand même. Commencent après 51, voilà. Donc là, joker.
Hein. Assez souvent, c'est vrai que malgré tout, elles sont plutôt fin. Enfin,
plutôt des années 60.
Après 51, ouais. Même s'il y en a avant, hein, mais. Voilà. Souvent on a été arrêté là, on s'est dit oh là là, on avait oublié ça. Ah ben non, halt, c'est après 51, ça n'existe pas.
On va faire paraître là, nous, un recueil d'articles l'année prochaine, justement, sur la proto-science-fiction. Et Jean-Louis a écrit donc un article sur la science-fiction québécoise. C'est vrai qu'il a appelé son article l'essor avorté de la science-fiction québécoise. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup, enfin, il les avait listés. Mais voilà, il n'y avait pas grand-chose quand même dans cette première partie du 20e siècle.
Parce que quelles sont les dates
que
vous êtes fixées ?
1880-1950.
Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, dans le même parcours.
C'est vite le tour. Hein. Oui, c'est pas voilà. La Suisse où il y a plus de choses quand même.
Non, mais tout à fait. Mais c'est vrai que le Québec, là, pour le coup, parce que la science-fiction s'est quand même développée beaucoup plus tardivement donc au Québec. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Pascal.
Oui, Pascal Lecouman. Et après, monsieur.
Il y a une chose sur Janita. Bibliothèque, c'est pour ça. Il y a l'extension de Gallica Européana qu'il faut aussi examiner. J'ai découvert dans Européana un document lié à ma vie, numérisé par les Hongrois. C'est inconnu chez moi.
C'est ça.
Un deuxième problème que pose Gallica et tout ça, c'est ceci. Les bibliothécaires, les grandes bibliothèques, se sont racontés des blagues sur leur propre boulot quand il s'agissait de passer à l'ordinateur. Elles ont inventé une norme de traitement, de catalogage, au début des années 60, en gros, ISBD, où les techniciens supposaient lisibles par machine. Or, toutes les bibliothèques, quand elles ont eu une machine, c'est-à-dire un ordinateur, ont dû regarder tout ce qu'elles ont. Et elles l'ont fait comment ? Par exemple, la Nationale de France a sous-traité la saisie de ses fiches à une firme aux Philippines, mais pas à des bibliothécaires professionnels.
Et ils font moins d'erreurs.
Quand on soit nigérien. D'autre part, on s'en est tenu là, moins les mises à jour subséquentes qui surviennent, et parfois, personnellement, pu signaler en partie des erreurs dans la formule d'une personne, de l'autorité, comme on dit. Mais en général, les fichiers de bibliothèque en ordinateur n'ont jamais été faits documents en main. Jamais.
C'est l'anti-42.
Il y a des exceptions. J'ai traité dans la boîte où je travaille les périodiques locaux depuis qu'on en a, 19e siècle. Moi, je les ai faits documents en main. Tel de mes collègues, si ça n'avait plus qu'à lui, il m'aurait foutu des pieds au cul pour que je le fasse autrement. Parce que ça prend trop de temps. C'est pas vrai, on gagne des décennies en ayant perdu des semaines.
C'est typiquement suisse.
Mais sinon, on est vite pointillé. Et puis j'aimerais dire alors une anecdote différente qui est aussi un piège de bibliothèque. J'ai eu en main un document en langue artificielle IDO, ce qui veut dire que c'est un dérivé d'Esperanto, ça date de 1930 ou à peu près. C'est dans la Marxista Ido Biblioteco, Bibliothèque Ido Marxiste, publiée en URSS. C'est une série de brochures, numéro 1, qui retrace les grandes étapes de l'histoire de l'humanité. Numéro 1, c'est un fragment de la guerre du feu, premier. Aucune signature.
Oui, donc.
Pas mal.
Voilà. Monsieur ?
Je pense à qui ? Je vais revenir un peu à la problématique que je soulevais tout à l'heure, c'est-à-dire que même le mot science-fiction et l'existence de la science-fiction telle qu'on l'aborde, j'imagine, dans cet ouvrage, est quelque chose qui est le fruit d'une génération.
je songe par exemple à l'ouvrage de Stenberg qui est une succursale du fantastique nommé science-fiction. On va appeler science-fiction, disons, une littérature imaginaire qui est censée avoir un minimum de références solides scientifiques. Mais déjà, si on remonte loin dans le temps, on parlait de Rabelais tout à l'heure, ou de Cyrano Bergerac, ou ce que vous voudrez, à cet endroit-là, il est très difficile de dissocier le scientifique du fantastique. Aujourd'hui,
ça s'appelle pas science-fiction.
On prend par exemple la notion de Ballard, de spéculative fiction, on a aujourd'hui complètement éclaté le cadre de la science-fiction classique. À partir de la fin des années 60, disons, du début des années 70. Donc, qu'est-ce que la science-fiction ?
Ah, c'est ça votre question,
monsieur.
Donc là, il nous reste très précisément 7 minutes. Ça va être extrêmement difficile.
Ce qui marquera peut-être, quelque chose qui étonnera peut-être les lecteurs, après des années de lecture, quand ils auront feuilleté cet ouvrage, c'est que finalement, ils verront le mot science-fiction sera écrit très peu souvent. Très peu souvent, justement, parce que il n'existe pas. Dans les zones qu'on couvre, personne, comme le disait Francis tout à l'heure, personne ne parle de science-fiction. Nous, on met merveilleux scientifique, roman scientifique. On essaie de reprendre un peu les termes que les gens
ont utilisés
à l'époque. Et on a évité le plus possible d'employer le terme de science-fiction, sauf lorsqu'on arrive aux toutes dernières années où ça commence, ou parfois même. Le mot science-fiction est marqué dans quelques BD, mais c'est très peu. Donc on l'a fort peu employé. Hein, et il n'est pas dans notre titre mal défini. Il n'a pas marqué
science-fiction.
Évidemment, on le marquera en quatrième de couverture, partout, etc. Mais justement, nous avons essayé d'éviter de l'employer. Donc nous, on parle de conjecture romanesque rationnelle à la Versin, que nous concept beaucoup plus vague.
J'aime bien.
Qui contient la rationnelle. Oui, mais rationnel au sens, pour le distinguer du pur merveilleux, on va dire, mais c'est tout. Mais qui est beaucoup plus vague, mais qui contient la science-fiction, par contre. En effet. Mais nous, comme on s'arrête en 51.
C'est pour ça qu'en réalité, c'est beaucoup plus précis.
En fait, oui. Quand je dis vague, c'est qu'en fait. C'est-à-dire que oui, c'est plus précis, mais au sens où, effectivement, comme ça ne dit pas grand-chose, moins ça dit de choses, moins il y a de risques de se tromper. Mais au bout d'un moment, le caractère commode du terme, c'est vrai que quand on dit à quelqu'un conjecture romanesque rationnelle, il faut
ça lui dit pas grand chose.
Dans certains cas, ils vont nous dire mais attendez, là vous avez Rabelais.
Vous pouvez répéter la question.
Là vous avez Maurice Lima, là vous avez du truc. On a des utopies, enfin on a un mélange de choses dont on peut quand même se demander quel est le rapport entre une BD de Pélos et un texte et une utopie de truc de Fourier. Au demande, c'est drôle que ce soit dans le même ouvrage, malgré tout. Il y a quand même des textes qui sont, on voit bien qu'ils ne sont pas du tout dans la même philosophie. Nous, on les a annexés, parce que ça nous plaît, mais on voit
c'est
juste
plus petit
la cohérence. Oui, voilà, la cohérence. Enfin,
par exemple, le space opéra,
il suffit de
scientifique.
Rien qu'en regardant les images, et ça, c'est que des images, hein, rien qu'en regardant défiler ces images-là, on se dit, c'est. Qu'est-ce que c'est le point commun de ce qu'il nous présente là? Alors, on va trouver des choses. Hein. On en tirera des conclusions complètement différentes de quelqu'un qui feuilletera le bouquin. En fait, c'est nous qui décidons ce qui est de la science-fiction.
Mathieu,
je crois.
Oui, Mathieu. Aussi. Mathieu.
Juste à l'ouverture de Jim Tagg, là, on a vu quelques esquisses, mais est-ce qu'elle sera prête
Avec le nouveau délai, elle sera prête.
Je ne vais pas lui dire.
Mais il ne faut pas le dire à Jim.
Non,
surtout là. Ah ben, monsieur. Nous avons une autre question. Ce sera peut-être la dernière. Parce que je vois que nous arrivons à la fin de notre temps imparti.
Je voulais savoir si dans le livre, il y avait une recension justement des termes qui ont servi à désigner ces types de littérature avant que le science-fiction en apparaisse.
Non, parce que ce n'est pas l'objet, je pense.
Ce n'est pas localisé. La réponse à votre question n'est pas localisée dans le livre. Par contre, en lisant tout, vous aurez une petite idée.
Ce qu'on a essayé de faire, voilà, c'est ça, voilà.
C'est bien,
Il faudra lire les bibliographies avec soin, parce que souvent on aime bien mettre les... sur le bouquin il y a marqué roman d'aventure ou roman scientifique.
Ah oui, on reprend ça.
On aime bien
les collections.
Comme ça
donne une idée.
Un peu l'impression de comment, à l'époque, on essayait de faire, de capter le lecteur en lui disant regardez, vous allez lire un roman de pas de science-fiction, mais un roman scientifique. Ah ouais, un roman scientifique, il faut les lire.
C'est colleté un sacré nom de merde. Ouais.
Je crois, pour pas répondre du tout à votre question, mais la difficulté justement de la science-fiction, c'est qu'en fait, il y a quand même un mélange entre le sens du terme, le sens vraiment lexical du terme, la définition, et ce que ça recoupe en tant que concept. Et donc, par exemple, quand on parle de littérature conjecturale, on réfléchit effectivement à des projections futures, il peut y avoir un lien avec l'utopie, mais finalement, ça ne correspond pas à la définition, peut-être, qu'on peut donner du terme science-fiction. Vous voyez, d'où vient ce mot science-fiction? Quand est-ce qu'il a été utilisé? Dans quel contexte, etc.
C'est-à-dire que là, quand je vois une partie des couvertures, par exemple, une main géante qui s'apprête à saisir une rame, je pense plutôt à du fantastique.
Ben, il faut lire le livre dans ce cas-là. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et il faut revenir effectivement à la définition du fantastique aussi. Voyez, donc il faut vraiment faire une sorte de phylogénétique aussi des genres hein, pour définir tout ça. Bien, nous allons clore ces belles interventions. Merci de votre présence et on vous souhaite un bon appétit.